Oscar Wilde, L'enfant étoile. Traduit par Albert Savine. Chapitre 1. Il y avait une fois deux pauvres bûcherons qui regagnaient leur logis à travers une grande forêt de pins. C'était l'hiver, et la nuit était d'un froid glacial. La neige formait une couche épaisse sur le sol et sur les branches des arbres. La gelée faisait craquer les branchettes partout sur leur passage, mais lorsqu'ils arrivèrent au torrent de la montagne, elle était suspendue, immobile dans l'air, car elle avait reçu le baiser du roi de la glace. Il faisait si froid que même les animaux et les oiseaux ne savaient qu'en penser. « faisait le loup, en boitant à travers les broussailles, la queue entre les jambes. « Voilà un temps absolument affreux. Pourquoi le gouvernement n'intervient-il pas ?»«
Oui, 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 » gazouillèrent les vertelinottes. « La vieille terre est morte, et on l'a enveloppée dans son linceul blanc. »«
La terre va se marier, et c'est sa toilette de fiancée, »
se dirent tout bas les tourterelles. Leurs petits pieds écarlates étaient presque gelés de froid, mais elles sentaient que c'était un devoir pour elles de prendre la situation du côté romanesque.
« Sottise !» grogna le loup. « Je vous dis que tout cela, c'est la faute au gouvernement, et si vous ne me croyez pas, je vais vous manger !»
Le loup avait l'esprit tout à fait pratique et n'était jamais à court d'excellents arguments.
« Eh bien, pour mon compte, » dit la pie, qui était philosophe de naissance, je ne me mettrai pas en frais d'une théorie atomique pour former une explication. Si une chose est comme ça, elle est comme ça, et pour le moment il fait terriblement froid.
Et bien sûr, il faisait un froid terrible. Les petits écureuils qui habitaient l'intérieur du grand sapin se frottaient mutuellement le nez pour se tenir chaud. Les lapins se mettaient en boule dans leur terrier et ne se risquaient pas même à regarder dehors. Les seules personnes qui eussent l'air content étaient les grands-ducs. Ils avaient leur plumage tout raidi par le givre, mais cela leur était bien égal. Ils roulaient leurs grands yeux jaunes et s'appelaient les uns les autres à travers la forêt.
« Ouh, 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 ouh.
« Quel temps charmant nous avons !»
Les deux bûcherons cheminaient de leur mieux, soufflant avec entrain sur leurs doigts et jouant de leurs grosses bottes à clous sur la neige durcie. Une fois, ils tombèrent dans un grand trou comblé par la neige et en sortirent aussi blancs que des meuniers pendant que les meules tournent. Une autre fois, ils glissèrent sur la glace du relis de la mare dont la surface était gelée. Les liens de leurs fagots se défirent. Il leur fallut ramasser le bois et le lier de nouveau. Une fois enfin, ils crurent qu'ils s'étaient égarés, et ils eurent grand-peur, car ils savaient que la neige est cruelle pour ceux qui s'endorment entre ses bras. Mais ils eurent confiance dans le bon Saint-Martin, qui veille sur tous les voyageurs. Ils revinrent sur leurs pas. Ils atteignirent enfin la lisière de la forêt, et aperçurent là-bas, bien loin dans la vallée, les lumières du village où ils habitaient. Ils étaient si contents de s'être tirés d'affaire qu'ils rirent très haut. La terre leur faisait l'effet d'une fleur en argent, et la lune l'effet d'une fleur en or. Mais quand ils eurent ri, ils devinrent tristes, car leur pauvreté leur revint à l'esprit. Le premier dit au second :
« Pourquoi cette gaieté, attendu que la vie est faite pour les riches, et non pour des gens comme nous ? Il eût mieux valu mourir de froid dans la forêt, ou bien qu'une bête féroce tombât sur nous et nous égorgeât. »
C'est vrai, répondit son compagnon. Il est beaucoup donné à certains et bien peu à d'autres. C'est l'injustice qui a fait les parts en ce monde, et c'est seulement pour les peines que les parts ont été faites égales. Mais comme ils geignaient tour à tour sur leur misère, il arriva une chose étrange. Il tomba du ciel une très brillante et très belle étoile. Elle glissa de côté dans le ciel, passa dans sa course devant les autres étoiles, et pendant qu'il les regardait,
Tout étonnée, elle parut plonger derrière un bouquet de saules, tout près d'un petit parc à moutons, à moins d'un jet de pierre.
« Tiens, voilà un pot plein d'or !» s'écrièrent-ils.
Et ils se mirent à courir tant ils avaient hâte de mettre la main sur cet or. L'un courut plus vite que son camarade. Il le dépassa, se fraya chemin à travers les saules et sortit de l'autre côté. Et en effet, il y avait quelque chose qui était en or sur la blancheur de la neige. Le bûcheron hâta donc le pas de ce côté, se baissa, posa la main dessus. C'était une étoffe d'or tissé, où étaient brodées des étoiles, et pliées en plis nombreux. Et il cria à son camarade qu'il avait trouvé le trésor tombé du ciel. Quand son camarade l'eut rejoint, ils s'assirent sur la neige, et défirent, un à un, les plis du manteau, afin de se partager les pièces d'or. Mais hélas, il n'y avait là-dedans ni or ni argent, pas l'ombre d'un trésor, rien qu'un petit enfant endormi. Et l'un dit à l'autre, « Voilà un triste dénouement pour nos espérances, et nous n'avons guère de chance, car de quel profit est un enfant pour un homme ? Laissons-le là, et allons notre chemin, car nous sommes de pauvres gens, nous avons nos propres enfants, et nous ne devons pas donner leur pain à un autre. » Mais son compagnon lui répondit, « Non, ce serait commettre une mauvaise action de laisser l'enfant périr ici dans la neige. Et quoique je sois aussi pauvre que toi, et que j'ai bien des bouches à nourrir, avec une marmite où il n'y a pas grand-chose, je le rapporterai à la maison, et ma femme aura soin de lui. » Donc il prit l'enfant très doucement, et roula le manteau autour de lui pour l'abriter contre le froid rigoureux. Et il descendit la pente de la côte jusqu'au village, pendant que son camarade s'étonnait beaucoup de le voir si niais et le cœur si tendre. Et lorsqu'ils furent arrivés au village, son camarade lui dit, « Tu as l'enfant, donc donne-moi le manteau, car il est juste que nous partagions. » Mais il lui répondit, « Non, car le manteau n'est ni à moi ni à toi, il appartient à l'enfant. » Et il lui souhaita bon voyage, arriva à sa maison et frappa. Et quand sa femme ouvrit la porte et vit que son mari lui revenait sain et sauf, elle lui mit les bras autour du cou et l'embrassa. Puis elle lui ôta du dos la charge de fagots, enleva la neige de ses bottes et lui dit d'entrer. Mais il lui dit, « J'ai trouvé quelque chose dans la forêt, et je te l'ai apporté pour que tu en prennes soin. » Et il resta planté sur le seuil. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria-t-elle. « Montre-le-moi, car la maison est bien nue, et il nous manque bien des choses. » Alors il entr'ouvrit le manteau et lui montra l'enfant endormi. « Hélas, bonhomme, » dit-elle à demi-voix, « n'avons-nous pas nos enfants ? Et faut-il encore que tu apportes un enfant de fée pour qu'il s'assoie à notre foyer ? Eh, qui sait s'il ne nous apportera pas la mauvaise fortune ? Puis, comment le soigner ?» Et elle s'emporta contre lui. « Non, » répondit-il, « c'est une petite étoile. » Et il lui conta l'étrange façon dont s'était fait la trouvaille. Mais au lieu de se laisser apaiser, elle se moqua de lui. Elle parla d'un ton colère. Elle s'écria, « Nos enfants manquent de pain. Nous faudra-t-il nourrir l'enfant d'une autre ? Quelqu'un s'occupe-t-il de nous ? Et qui nous donne de la nourriture ? Non, Dieu a souci, même des passereaux, et il les nourrit, » répondit-il. « Est-ce que les moineaux ne meurent pas de faim en hiver ? » demanda-t-elle. « Hé, ne sommes-nous pas en hiver ?» Et l'homme ne répondit pas. Il restait planté sur le seuil. Et de la forêt vint un vent glacial qui entra par la porte ouverte et qui la fit grelotter et trembler. « Fermeras-tu pas cette porte ? Par là, il entre dans la maison avant froid, et je suis transi. » « Dans une maison où il y a un cœur dur, n'y a-t-il pas toujours un vent glacé ? » demanda-t-il. Et la femme ne répondit pas. Elle se serra plus près du feu. Et au bout d'un instant, elle se tourna et le regarda. Elle avait des larmes plein les yeux. Et il se hâta d'entrer, lui mit l'enfant dans les bras. Elle l'embrassa et le plaça dans un petit lit où était couché le plus jeune de ses propres enfants. Et le lendemain, le bûcheron prit le merveilleux manteau et le mit dans un grand coffre. Sa femme y rangea aussi un collier d'ambre que l'enfant avait autour du cou. Chapitre 2. Ainsi donc, l'enfant étoile fut élevé avec les enfants du bûcheron. Il s'assit à la même table qu'eux et fut leur compagnon de jeu. Chaque année, il devenait plus beau à voir, si bien que tous les habitants du village étaient remplis d'admiration. En effet, eux, ils étaient d'un teint noirot et avaient les cheveux noirs, tandis qu'il était blanc et délicat comme les couches profondes de l'ivoire, et les boucles semblables aux anneaux des asphodèles. En outre, ses lèvres semblaient les pétales d'une fleur rouge. Ses yeux étaient comme des violettes au bord d'un clair ruisseau, et son corps comme un narcisse dans une prairie où ne passe point le faucheur. Mais sa beauté tourna mal pour lui, car il devint fier, cruel, égoïste. Il méprisait les enfants du bûcheron et les autres enfants du village. Il disait qu'ils étaient de basse naissance, tandis que lui était noble, étant né d'une étoile. Il se prétendit leur maître et les appela ses domestiques. Et il n'avait nulle pitié pour les pauvres, non plus que pour ceux qui avaient perdu la vue, qui avaient été estropiés, qui avaient été frappés d'un malheur quelconque. Il leur jetait des pierres, les repoussant sur leur grand chemin, leur disant d'aller mendier leur pain n'importe où, en sorte que personne, si ce n'est les vauriens, ne venait deux fois demander l'aumône au village. À la vérité, il était en quelque sorte amoureux de beauté, et n'avait que raillerie pour ce qui était faiblard et difforme. Il en faisait son sujet de plaisanterie habituelle. C'était lui-même qui l'aimait, et en été, quand les vents se taisaient, il s'étendait à côté de la source dans le verger du prêtre et restait là, à contempler avec admiration sa propre figure, à rire du plaisir qu'il éprouvait à se voir si beau. Souvent le bûcheron et sa femme le réprimandaient et lui disaient « N'avons pas agi envers toi comme tu le fais avec ceux qui sont laissés à l'abandon, et n'ont personne pour leur venir en aide. Pourquoi donc es-tu si cruel pour tous ceux qui ont besoin d'aide ?» Souvent le vieux prêtre l'envoyait chercher et essayait de lui apprendre à aimer les êtres vivants. Il lui disait « La mouche est ta sœur, ne lui fais pas de mal. Les oiseaux sauvages, qui errent dans la forêt, ont droit à leur liberté. Ne leur tends pas de piège pour ton plaisir. Dieu a fait l'orvée et la taupe, et ils sont chacun à sa place. Qui es-tu pour porter la souffrance dans le monde de Dieu? Même les bêtes des champs le louent. » Mais l'enfant étoile ne tenait aucun compte de ces paroles. Il fronçait le sourcil, prenait un air goguenard, allait retrouver ses compagnons et les gouvernait à sa guise. Et ses compagnons le suivaient, car il était beau, il avait le pied leste, jouait de la flûte rustique et composait de la musique. Et ils suivaient l'enfant étoile partout, et tout ce qu'il leur commandait, ils le faisaient. Et quand il crevait avec un roseau pointu les yeux troubles de la taupe, il riait, et il riait encore lorsqu'il lançait des pierres aux lépreux. Il les gouvernait ainsi en toutes choses, et leur cœur devenait aussi dur que le sien. Chapitre 3. Or un jour, passa dans le village une pauvre mendiante. Ses vêtements étaient en haillons, en lambeaux, et ses pieds s'étaient ensanglantés sur les mauvais chemins où elle avait passé. Elle était vraiment en piteuse condition. Et comme elle n'en pouvait plus, elle s'assit sous un noyer pour se reposer. Mais lorsque l'enfant étoile l'aperçut, il dit à ses compagnons « Voyez là-bas, sous ce bel arbre au feuillage vert, est assise une sale mendiante. Allons, chassons-la, car elle est laide et difforme. » Donc il s'approcha et lui jeta des pierres, et il la tourna en dérision. Elle le regarda avec effroi, mais sans pouvoir détourner ses yeux de lui. Et quand le bûcheron qui fendait du bois sous un hangar tout près de là vit ce que faisait l'enfant étoile, il accourut et le réprimanda en lui disant « Certes, tu as le cœur dur, et tu ne connais pas la pitié, car quel mal t'a fait cette pauvre femme pour que tu la traites de cette façon ?» Et l'enfant étoile rougit de colère et trépigna et dit « Qui es-tu pour me questionner sur ce que je fais? Je ne suis pas ton fils pour obéir à tes ordres. » « Tu dis la vérité, » répondit le bûcheron. Cependant, je t'ai montré de la pitié quand je t'ai trouvé dans la forêt. » Et lorsque la femme entendit ces mots, Elle jeta un grand cri et tomba sans connaissance. Et le bûcheron la porta chez lui. La bûcheronne la soigna, et lorsque la mendiante fut revenue de l'évanouissement où elle était tombée, le bûcheron mit devant elle de quoi manger et boire, et la pria de se mettre à l'aise. Mais elle ne voulut ni manger ni boire. Elle dit au bûcheron,
« N'as-tu pas dit que l'enfant avait été trouvé dans la forêt? Et n'y a-t-il pas 10 ans de cela ?»
Et le bûcheron répondit, « Oui, c'est dans la forêt que je le trouvais. Et il s'est passé 10 ans depuis ce jour-là. »
« Et quel signe as-tu trouvé avec lui ? » s'écria-t-elle. « N'avait-il pas au cou un collier d'ambre ? N'était-il pas enveloppé dans un manteau de tissu d'or où étaient brodées des étoiles ?»«
C'est vrai, » répondit le bûcheron. « Il était ainsi que tu le dis. »
Et il tira le manteau et le collier d'ambre du coffre où ils étaient placés, et les lui montra. Et quand elle les vit, elle pleura de joie et dit,
« C'est mon petit garçon que j'ai perdu dans la forêt. Oh, je t'en prie, envoie-le chercher tout de suite, car j'ai erré à sa recherche dans le monde entier. »
Le bûcheron et sa femme sortirent donc et appelèrent l'enfant étoile et lui dirent,
« Retourne à la maison, et tu y trouveras ta mère qui t'attend. »
Ainsi il accourut, plein d'étonnement et de joie. Mais en voyant celle qui l'attendait là, il eut un rire méprisant et dit,
« Eh bien, où est ma mère ? Car je ne vois ici que cette ville mendiante. »
Et la femme répondit, « Je suis ta mère. »
« Tu es folle de parler ainsi !» s'écria avec colère l'enfant étoile. « Je ne suis pas ton fils, car tu es une mendiante, laide, en haillons. Ainsi donc, va-t'en d'ici, et que je ne vois plus ta hideuse figure. »
« Non !» s'écria-t-elle en tombant à genoux, et lui tendant les bras. « Tu es bien mon petit garçon, que j'ai mis au monde dans la forêt. Les brigands t'ont volé. Et t'ont abandonné à la mort, murmura-t-elle. Mais je t'ai reconnu dès que je t'ai vu, et j'ai reconnu aussi les signes, le manteau de tissu d'or et le collier d'ambre. Je t'en prie donc, viens avec moi, car j'ai erré par le monde entier à ta recherche. Viens avec moi, mon fils, car j'ai besoin de ton amour. »
Mais l'enfant étoile ne bougea pas de sa place. Il lui ferma les portes de son cœur, et on n'entendit plus rien que le bruit que faisait la femme en pleurant de douleur. À la fin, il lui parla, et sa voix était dure et âpre.
« Si tu es vraiment ma mère, il eût mieux valu pour toi de rester loin de ce village, au lieu de venir ici m'humilier, car je me croyais le fils d'une étoile, et non point celui d'une mendiante, comme tu prétends que je le suis. Ainsi donc, va-t'en d'ici, et que je ne te vois plus. »
« Hélas, mon fils !» s'écria-t-elle. « Ne m'embrasseras-tu pas avant que je parte, car j'ai bien souffert pour te trouver. »
« Non, » dit l'enfant étoile, « tu es trop hideuse à regarder, et j'aimerais mieux embrasser la vipère ou le crapaud que de t'embrasser. »
Alors la femme se leva et s'en alla dans la forêt en pleurant amèrement. Et quand l'enfant étoile vit qu'elle n'était plus là, il se réjouit et retourna auprès de ses compagnons de jeu pour jouer avec eux. Mais dès qu'ils le virent approcher, ils se moquèrent de lui et dirent
« Hé, tu es aussi laid que le crapaud, aussi répugnant que la vipère. Va-t'en d'ici, car nous ne souffrirons pas que tu joues avec nous. »
Et ils le chassèrent du jardin. Et l'enfant étoile fronça les sourcils et se dit à lui-même
« Qu'est-ce donc qu'ils me disent ? Je vais me rendre à la source et je m'y regarderai. Et elle me parlera de ma beauté. »
Il alla donc à la source et y regarda. Oh surprise ! Sa figure était semblable à celle du crapaud, et son corps était écailleux comme celui de la vipère. Et il se jeta sur l'herbe et pleura, en se disant,
« Sûrement, c'est mon péché qui est la cause de cela, car j'ai renié ma mère, je l'ai chassée, je me suis montré orgueilleux et cruel à son égard. Aussi, je partirai. J'irai à sa recherche dans le monde entier, et je n'aurai point de repos jusqu'à ce que je l'ai trouvé. »
Alors vint à lui la fillette du bûcheron. Elle lui mit la main sur l'épaule en disant,
« Qu'importe que tu aies perdu ta beauté, reste avec nous, et je ne me moquerai point de toi. »
Et il lui dit, « Non, j'ai été cruel envers ma mère. Et c'est comme châtiment
que ce malheur m'a été envoyé. Il faut donc que je parte d'ici et que j'erre par le monde jusqu'à ce que je la retrouve et qu'elle m'accorde mon pardon. » Il courut à la forêt et à grands cris, il pria sa mère de venir à lui. Mais il ne reçut aucune réponse. Il l'appela pendant tout le jour, et au coucher du soleil, il s'étendit sur un lit de feuilles pour dormir. Les oiseaux et les autres animaux fuyaient loin de lui, car il se rappelait sa cruauté. Il n'avait pour compagnon que le crapaud, qui le surveillait, et la lente vipère, qui passait par là en rampant. Et le matin, il pleura, cueillit aux arbres quelques baies amères et les mangea. Puis il se mit en route à travers le grand bois en pleurant. Et à chaque bête qu'il rencontrait, il demandait si par hasard elle avait vu sa mère. Il dit à la taupe : « Tu peux aller sous la terre. Dis-moi, ma mère y est-elle ? » Et la taupe répondit : « Tu m'as crevé les yeux. Comment le saurais-je ? » Il dit à la linotte : « Tu peux voler au-dessus de la cime des arbres les plus hauts, et tu peux voir le monde entier. Dis-moi, peux-tu voir ma mère ?» Et la linotte répondit : « Tu m'as rogné les ailes pour t'amuser. Comment pourrais-je voler ?» Et au petit écureuil qui habitait dans le creux des sapins et y vivait dans l'isolement, il dit : « Où est ma mère ?» Et l'écureuil répondit : « Tu as fait périr la mienne. Est-ce que tu cherches la tienne pour la faire périr aussi ?» Et l'enfant étoile pleura et courba la tête et demanda pardon aux créatures de Dieu et continua sa route à travers la forêt, cherchant la mendiante. Le troisième jour, il se trouva à l'autre bout de la forêt et descendit dans la plaine. Et lorsqu'il traversait les villages, les enfants se moquaient de lui et lui jetaient des pierres. Et les paysans ne le laissaient pas même coucher dans les granges, par crainte qu'il causât de la rouille dans les amas de blé, tant il était hideux à voir. Leurs valets le repoussaient, et il n'y avait personne qui eût pitié de lui. Et il lui fut impossible de rien apprendre au sujet de la mendiante sa mère, bien qu'il eût erré pendant l'espace de 3 ans à travers le monde, et qu'il se figurât l'avoir vue plus d'une fois devant lui sur la route, qu'il l'eût appelée, et qu'il se fût blessé au caillou tranchant de la route à force de courir après elle. Mais il n'arrivait point à la rejoindre, et les gens qui habitaient près de la route affirmaient qu'ils ne l'avaient pas vue, ni vu quelqu'un qui fût comme elle, et il se divertissait de sa peine. Pendant l'espace de 3 ans, il erra par le monde, et dans le monde, il n'y avait pour lui ni amour, ni bienveillance, ni charité. Le monde était tel qu'il se l'était fait lui-même dans ses jours de grand orgueil. Chapitre 4. Et un soir, il arriva à la porte d'une ville aux fortes murailles, située près d'un fleuve. Et tout las qu'il était, avec les pieds endoloris, il voulut entrer. Mais les soldats de garde abaissèrent leurs piques en travers de la porte et lui dirent d'un ton rude : « Que viens-tu faire dans cette ville ?»«
Je suis à la recherche de ma mère, » répondit-il, « et je vous prie de me laisser passer, car il peut se faire qu'elle soit dans cette ville. » Mais ils se moquèrent de lui, et l'un d'eux secoua sa barbe noire et posa son bouclier et s'écria :
« Sûrement ta mère ne sera point charmée de te revoir, car tu es plus horrible que le crapaud des mares ou que la vipère qui rampe dans les broussailles. Va-t'en, va-t'en, ta mère n'habite point dans cette ville. »
Et il répondit : « Ma mère est une mendiante, tout comme moi. Je l'ai traitée cruellement, et je vous prie de me laisser passer pour qu'elle puisse m'accorder son pardon, si par hasard elle s'est arrêtée dans cette ville. » Mais ils ne voulurent pas, et le piquèrent de leur lance. Et comme ils s'en allaient en pleurant, quelqu'un dont la cuirasse était émaillée de fleurs d'or, et dont le casque avait pour cimier un lion ailé, s'approcha, et s'informa auprès des soldats de celui qui avait demandé à entrer. Ils lui dirent :
« C'est un mendiant, fils de mendiante, et nous l'avons chassé. »«
Non, » s'écria-t-il en riant.
« Nous allons vendre comme esclave cette laide créature, et avec le prix, nous aurons un bol de vin doux. »
Et passait alors un vieux, à figure mauvaise, qui dit : « Je l'achète pour ce prix !»
Et lorsqu'il eut payé la somme, il prit par la main l'enfant étoile et le conduisit dans la ville. Et quand ils eurent parcouru bien des rues, ils arrivèrent à une petite porte pratiquée dans un mur, au-dessus duquel s'étalait un grenadier. Et le vieillard toucha la porte avec un anneau de jaspe gravé. Elle s'ouvrit. Il descendit par 5 marches de bronze dans un jardin rempli de pavots noirs et de jarres vertes en terre cuite. Et le vieillard détacha alors de son turban une écharpe de soie à ramages et s'en servit pour bander les yeux de l'enfant étoile qu'il poussa devant lui. Et quand le bandeau fut ôté de ses yeux, l'enfant étoile se trouva dans une prison qu'éclairait une lanterne de corne. Et le vieillard mit devant lui un peu de pain moisi sur un plateau, et lui dit « Mange !» Il versa de l'eau saumâtre dans une tasse et dit « Bois !» Et quand il eut bu et mangé, le vieillard, tout en fermant la porte, à la clé derrière lui, la consolida avec une chaîne de fer. Chapitre 5. Et le lendemain, le vieillard, qui était vraiment le plus subtil des magiciens de Libye, et qui tenait son art d'un homme qui habitait dans les tombes du Nil, vint à lui, et le regarda en fronçant le sourcil et dit « Dans un bois situé près de la porte de cette ville de Giaours, il y a 3 pièces d'or. L'une est d'or blanc, l'autre d'or jaune, et l'or de la troisième est rouge. Aujourd'hui, tu m'apporteras la pièce d'or blanc. Et si tu ne me l'apportes pas, je te frapperai de 100 coups de verge. Va-t'en sans délai, et au coucher du soleil, je t'attendrai à la porte du jardin. Fais attention d'apporter l'or blanc, ou cela ira mal pour toi, car tu es mon esclave, et je t'ai acheté pour la valeur d'un bol de vin doux. » Et il banda les yeux de l'enfant étoile avec l'écharpe de soie à ramage, le guida à travers le jardin de pavots, et lui fit monter les 5 marches de bronze. Et ayant ouvert la petite porte avec son anneau, il le mit dans la rue. Chapitre 6. Et l'enfant étoile sortit par la porte de la cité et arriva au bois dont le magicien lui avait parlé. Or ce bois était bien beau à voir du dehors. Il paraissait plein d'oiseaux chanteurs et de fleurs au doux parfum, et l'enfant étoile y entra avec plaisir. Mais cette beauté n'était qu'un leurre, car partout où il allait, des ronces et des épines surgissaient autour de lui et l'enveloppaient. Des orties méchantes le piquaient. Le chardon le perçait de ses poignards, de sorte qu'il était dans une cruelle situation. Et il ne pouvait trouver nulle part la pièce d'or blanc dont le magicien lui avait parlé, bien qu'il la cherchât du matin à midi, et de midi au coucher du soleil. Et, au coucher du soleil, il se tourna du côté de sa demeure, en pleurant amèrement, car il savait quel sort lui était réservé. Mais lorsqu'il fut à l'orée du bois, il entendit partir d'un buisson un cri comme celui d'un être qui souffre. Et, oubliant son propre chagrin, il retourna dans cet endroit en courant et vit un levreau pris dans un piège qu'avait posé là quelques chasseurs. Et l'enfant étoile eut pitié de lui, le délivra et lui dit « Moi, je ne suis qu'un esclave, et pourtant je te donne la liberté. » Et le levreau lui répondit en ces termes « Certainement, tu m'as rendu la liberté. Que te donnerai-je en retour ?» Et l'enfant étoile lui dit « Je dois chercher une pièce d'or blanc. Je ne puis la trouver nulle part. Et si je ne l'apporte pas, mon maître me battra. »«
Viens avec moi, » dit le levreau, « et je t'y conduirai, car je sais où et pourquoi les cacher. »
L'enfant étoile vint donc avec le levreau, et voici que dans la fente d'un grand chêne se trouvait la pièce d'or blanc qu'il cherchait. Il fut rempli de joie. Il la saisit et dit au levreau : « Le service que je t'ai rendu,
tu t'en es acquitté bien des fois, et la bonté que je t'ai montrée m'a été payée au centuple. »
« Non, répondit le Levrault, j'ai agi envers toi comme tu as agi envers moi. »
Puis il s'enfuit rapidement, et l'enfant étoile se dirigea vers la ville. Or, à la porte de la ville, était assis un homme atteint de la lèpre. Sur sa figure était attachée une coiffe de toile grise, et à travers les trous, ses yeux flambaient comme des charbons. Et quand il vit venir l'enfant étoile, il frappa sur une tasse de bois et agita sa clochette, l'appela et lui dit
« Donne-moi une pièce de monnaie, sans quoi il me faudra mourir de faim, car on m'a jeté hors de la ville, et personne n'a pitié de moi. »
« Hélas, s'écria l'enfant étoile, je n'ai qu'une pièce de monnaie dans ma sacoche, et si je ne l'apporte pas à mon maître, il me battra, car je suis son esclave. » Mais le lépreux le supplia, l'implora, jusqu'à ce qu'enfin l'enfant étoile fût pris de pitié, et lui donna la pièce d'or blanc. Et quand il fut revenu à la maison du magicien, le magicien lui ouvrit, le fit entrer, et lui dit
« As-tu la pièce d'or blanc ?»
Et l'enfant étoile répondit « Je ne l'ai pas. » Aussitôt le magicien tomba sur lui, le battit et mit devant lui une assiette vide en lui disant
« Mange !»
et une tasse vide en lui disant « Bois !» Après quoi, il le renferma dans le cachot. Chapitre 7. Et le lendemain, le magicien revint le trouver et lui dit
« Si aujourd'hui tu ne me rapportes pas la pièce d'or jaune, tu peux être certain que je te garderai en esclavage et que je te donnerai 300 coups de verge. »
L'enfant étoile revint donc au bois. Il passa toute la journée à la recherche de la pièce d'or jaune, mais il ne put la trouver nulle part. Et au coucher du soleil, il s'assit et se mit à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, survint le Levrault qui l'avait délivré du piège. Et le Levrault lui dit
« Pourquoi pleures-tu? Et que cherches-tu dans le bois ?»
Et l'enfant étoile répondit « Je cherche une pièce d'or jaune qui est cachée par ici. Et si je ne la trouve pas, mon maître me battra et me retiendra en esclavage. »«
Suis-moi » cria le Levrault.
Et il courut à travers le bois jusqu'à ce qu'il fût au bord d'une flaque d'eau. Et au fond de cette flaque se trouvait la pièce d'or jaune.
« Comment te remercier ?» dit l'enfant étoile. « Car sais-tu, c'est la seconde fois que tu m'as secouru. »«
Non, » dit le Levrault, « c'est toi qui le premier as eu pitié de moi. » Après quoi, il s'enfuit de son pas le plus rapide. Et l'enfant étoile prit la pièce d'or jaune et la mit dans sa sacoche, et se hâta de retourner à la ville. Mais le lépreux le vit venir, et courut à sa rencontre. Il s'agenouilla et cria
« Donne-moi une pièce de monnaie, ou je mourrai de faim !»
Et l'enfant étoile lui dit
« Je n'ai dans ma sacoche qu'une pièce d'or jaune, et si je ne l'apporte point à mon maître, il me battra et me retiendra en esclavage. »
Mais le lépreux le supplia si instamment que l'enfant étoile eut pitié de lui, et lui donna la pièce d'or jaune. Chapitre 8. Et quand il arriva à la maison du magicien, le magicien lui ouvrit, le fit entrer et lui dit
« As-tu la pièce d'or jaune ?»
Et l'enfant étoile lui dit « Je ne l'ai pas. » Aussitôt le magicien tomba sur lui, le roua de coups, le chargea de chaînes et le jeta de nouveau dans le cachot. Et le lendemain, le magicien vint le trouver et lui dit «
Si aujourd'hui tu m'apportes la pièce d'or rouge, je te mettrai en liberté.
Mais si tu ne l'apportes point, sois certain que je te ferai périr. » Ainsi donc, l'enfant étoile retourna au bois et passa tout le jour à chercher la pièce d'or rouge et ne put la trouver nulle part. Et le soir venu, il s'assit et pleura. Et pendant qu'il pleurait, survint le Levrault. Et le Levrault lui dit
« La pièce d'or rouge que tu cherches est dans la caverne qui se trouve derrière toi. Ainsi donc, ne pleure plus et sois content. »«
Comment te récompenser ? » s'écria l'enfant étoile.
«
car voici la troisième fois que tu viens à mon secours. »
Non, c'est toi qui le premier as eu pitié de moi, dit le levrault, qui aussitôt prit la fuite.
Et l'enfant étoile entra dans la caverne, et dans l'angle le plus reculé, il trouva la pièce d'or rouge. Il la mit donc dans sa sacoche et se hâta de reprendre le chemin de la ville. Et le lépreux, le voyant venir, se mit debout au milieu de la route et lui dit
« Donne-moi la pièce de monnaie rouge, autrement il me faudra mourir !»
Et l'enfant étoile eut encore une fois pitié de lui et lui donna la pièce d'or rouge en disant « Ta détresse est encore plus grande que la mienne. » Néanmoins, il avait le cœur gros, car il savait quel sort lui était réservé. Chapitre 9. Mais chose surprenante, lorsqu'il franchit la porte de la cité, les gardes s'inclinèrent et lui rendirent hommage en disant « Comme notre prince est beau !» Et une foule de citadins le suivirent en criant « Certes, il n'y a personne d'aussi beau dans le monde !» Aussi l'enfant étoile pleura et se dit à lui-même « Ces gens se moquent de moi et s'égaient de mon malheur. » Et le rassemblement de peuple était si grand qu'il perdit son chemin et se trouva enfin sur une grande place où s'élevait le palais d'un roi. Et la porte du palais s'ouvrit, et les prêtres, avec les grands officiers de la ville, accoururent à sa rencontre et lui dirent « Tu es le prince que nous attendions, et le fils de notre roi !» Mais l'enfant étoile répondit en ces termes « Je ne suis point fils de roi, mais l'enfant d'une pauvre mendiante. Et pourquoi dites-vous que je suis beau, alors que je sais combien je suis laid à voir ?» Alors l'homme, dont la cuirasse était incrustée de fleurs d'or, et dont le casque avait pour cimier un lion ailé, lui présenta un bouclier en disant « Comment notre prince peut-il dire qu'il n'est point beau ?» Et l'enfant étoile regarda. Et chose étonnante, sa figure était aussi lisse qu'autrefois. Sa beauté lui était revenue, et il vit dans ses propres yeux quelque chose qu'il n'y avait pas vu jusqu'alors. Et les prêtres et les grands officiers se prosternèrent en lui disant « Il est dit dans une ancienne prophétie qu'un jour présent viendrait celui qui doit régner sur nous. Ainsi donc, que Monseigneur prenne cette couronne et ce sceptre, et que dans sa justice et sa miséricorde, il soit notre roi. » Mais il leur dit, « Je n'en suis point digne, car j'ai renié la mère qui m'a engendré, et je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que je l'ai trouvée et que je sache qu'elle me pardonne. Ainsi donc, laissez-moi partir, car il faut que je me remette à parcourir le monde. Et je ne saurais m'attarder ici, quoique vous m'apportiez la couronne et le sceptre. » En parlant ainsi, il détourna de son regard pour le diriger vers la rue qui aboutissait à la porte de la ville. Et voici que, parmi la foule qui se pressait autour des soldats, il aperçut la mendiante qui était sa mère, et auprès d'elle le lépreux qui s'était assis au bord du chemin. Et un cri de joie s'échappa de ses lèvres. Il s'agenouilla et baisa les blessures des pieds de sa mère et les mouilla de ses larmes. Il courba sa tête dans la poussière et lui dit avec un sanglot comme si son cœur allait se briser. « Mère, je t'ai renié à l'heure de mon orgueil. Accueille-moi à l'heure de mon humilité. Mère, je t'ai donné de la haine. Donne-moi de l'amour. Mère, je t'ai rejeté. Accueille maintenant ton enfant. » Mais la mendiante ne lui répondit pas un mot. Et il tendit les mains et étreignit les pieds blanchis du lépreux en lui disant « Trois fois je t'ai témoigné de la pitié. Dis à ma mère qu'elle me parle une seule fois. » Mais le lépreux ne lui répondit pas un mot. Et il sanglota de nouveau en disant « Mère, ma souffrance est au-dessus de mes forces. Donne-moi ton pardon. Et renvoie-moi à la forêt. » Et la mendiante lui mit la main sur la tête et lui dit « Relève-toi. » Et le lépreux lui mit la main sur la tête et lui dit aussi « Relève-toi. » Et il se remit debout. Il les regarda et que vit-il ? Un roi et une reine. Et la reine lui dit
voici ton père que tu as secouru. »
Et le roi dit, « Voici ta mère, dont tu as lavé les pieds de tes larmes. »
Et ils se jetèrent à son cou et l'embrassèrent. Ils le conduisirent au palais, le vêtirent de beaux habits et mirent la couronne sur sa tête, le sceptre dans sa main. Il régna sur la cité qui est assise au bord du fleuve, et il fut son souverain. Il montra à tous beaucoup de justice et de clémence. Il bannit le méchant magicien. Il envoya de riches présents au bûcheron et à sa femme, et il combla d'honneur leurs enfants. Il ne souffrait pas non plus qu'on fût cruel pour les oiseaux ou les autres animaux. Il enseignait l'amour et l'indulgence et la charité. Il donnait du pain aux pauvres, aux gens nus, de quoi se couvrir. La paix et l'abondance régnaient dans le pays. Toutefois, son règne ne fut pas long, tant il avait souffert, tant avait été dévorant le feu de son épreuve. Il mourut en effet au bout de 3 ans. Et celui qui régna après lui fut un mauvais roi.